8h31, la revue de presse. Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Une dispute de footballeurs à la une de l'Équipe.
Oui, Neymar et Cavani du Paris Saint-Germain qui ont failli se battre samedi soir dans le vestiaire du Parc des Princes pour un pénalty contre Lyon que Cavani a tiré et raté, mais que Neymar aurait souhaité tirer à sa place. Le clash titre l'Équipe qui viole, ça se fait de temps en temps, l'intimité du vestiaire pour décrire une bagarre avortée après des mots blessants. Curieusement, le dessinateur Soulcier dans l'Équipe semble démentir le choix de son journal. Il décrit cela comme une dispute de bac à sable. Et non, le dessinateur se trompe, pas un bac, mais un grain de sable égotique dans la perfection d'une équipe millionnaire qui vivait jusque-là un début de saison idyllique. Et l'histoire révèle, c'est dans l'Équipe et dans le Parisien, les hiérarchies d'un monde clos et des enjeux symboliques. Par exemple, la cruauté des groupes contre l'individu. L'Équipe redoute qu'un clan de joueurs brésiliens se forme autour de Neymar. Ils sont très liés, se reçoivent beaucoup, affichent leur complicité sur les réseaux sociaux. Clan qui isolerait l'Uruguayen Cavani, un amoureux de la nature, une personnalité discrète, un peu en retrait. D'ailleurs, Neymar ne suit plus Cavani sur Instagram, on est déjà dans le harcèlement. Oh. Il y a aussi de la dialectique entre d'un côté l'enjeu individuel et de l'autre l'intérêt collectif. L'Équipe, par la voix d'amis anonymes de Cavani, oppose l'envie de Neymar de gagner le Ballon d'Or et le besoin du Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions. On rappelle aussi que par le jeu des primes, eh bien, marquer un but de plus rend le footballeur riche, plus riche encore. Et on se souvient que le jeune Neymar, jadis, avait traité de « hijo de puta », traduction non utile, un autre Uruguayen, Suarez, qui lui avait chippé un but à Barcelone. Enfin, il y a l'autorité, ce sujet évidemment politique, qui ferait défaut, nous suggère l'Équipe, à l'entraîneur Unai Emery. Il devra trancher, dit le Parisien, muscler son jeu, dit l'Équipe. Tout ceci est donc futilement sérieux. Et un jour, peut-être, Cavani dira de Neymar ce que Sartre avait dit de Camus. Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien, tout juste une autre manière de vivre ensemble sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné.
Du football encore, Claude, mais au service d'une juste cause.
Oui, avec de la lumière, c'est dans l'Est républicain. On y voit une magnifique photo au maillot rouge de Maxence Prévost, goal du football club de Sochaux. Il est un peu moins connu que les deux susnommés. Sauf que lui viendra dédicacer son maillot dimanche prochain aux Virades de l'Espoir à Belfort. Les Virades, ce sont des manifestations qui sont organisées dans toute la France contre la muscovicidose. Ce sont des militants qui la préparent sous l'actualité visible. On en parle, il faut aller voir sur les sites de la Dépêche et de Paris-Normandie par exemple. Et dans l'Est républicain, une jeune fille est mise à l'honneur. Elle s'appelle Seida, elle a 14 ans. Une greffe de poumon lui a rendu l'espoir au printemps. Elle témoigne de ce qui est possible à la base, quand on s'entraide.
Et puis on parle finances publiques également, Claude, dans les journaux.
Avec une contradiction, bien une complétude, comme on voudra, entre deux journaux qui pourtant appartiennent au même groupe, c'est rassurant. D'un côté, les Échos se réjouissent pour Emmanuel Macron, l'étau budgétaire se desserre, la prévision de croissance revue à la hausse permet de revoir à la baisse les économies. Du coup, croient savoir les Échos bien informés, le gouvernement ne supprimera que 1600 emplois publics l'an prochain. Parfait. Sauf qu'en face, le Parisien dit exactement le contraire en termes d'ambiance. Régime budgétaire au menu, traitement de choc du gouvernement. Le Parisien qui s'inspire des lettres de cadrage qui ont été adressées cet été au ministère du Travail et du Logement. Il prédit des coupes terribles, notamment à Pôle emploi. Donc, ça va aller mieux ou ça va être pire, c'est presque un choix esthétique. Les journaux suivent les mobilisations qui se poursuivent contre les ordonnances travail. Ils se demandent, l'Humanité, les Échos, Libération, si la CFDT va mobiliser à son tour et si la base de force ouvrière se révoltera contre le patron Jean-Claude Mailly. Est-ce que les mécontentements coagule, question dans Le Monde et réponse dans le journal du soir, qu'on peut encore lire aujourd'hui, de la doublette de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui sont allés ensemble répondre aux questions du journal pour déminer le paysage et expliquer leur premier budget. C'est presque drôle, les deux ministres se marchent un peu dessus dans les réponses. On va dire, tiens, comme des footballeurs qui jouent au même poste, Le Maire. C'est un budget pour tous les Français, Darmanin. On ne prend ni aux riches ni aux pauvres, on travaille pour l'économie française et pour l'emploi. Au-delà des petites rivalités politiques et de communication qu'on le devine, on voit que l'opinion publique inquiète et pour le pouvoir, un enjeu.
Autre dossier politique ce matin, Claude, les transports, la mobilité.
Oui, et de la disette et de la technologie vont peut-être naître l'imagination. Dans le Figaro, on célèbre la fin des grands projets et une révolution copernicienne, je cite, exit les travaux pharaoniques décrétés depuis Paris pour redessiner la France avec des autoroutes et des lignes de TGV. La France rurale se moque que l'on gagne une heure sur un Paris-Bordeaux, mais apprécierait d'être mieux desservie. Et on a là un choix éditorial en rupture avec notre histoire qui date du général de Gaulle et avant, avec la magnificence de l'ingénierie française. Ou bien nous n'avons plus les moyens, ou alors il se passe quelque chose de l'ordre de la déconstruction idéologique. Heureusement, des repères, Le Figaro s'en prend à la forteresse SNCF, son statut hors du temps, cette entreprise qui croule sous les dettes et vit au crochet d'un État impécunieux. Là, on s'y retrouve. Vous l'avez dit, Nicolas, la mobilité, c'est de la politique. Si on l'ignorait, il suffirait de lire le télégramme de Brest qui s'insurge contre le patron de Ryanair, l'homme qui supprime des vols. Toute la presse régionale se fait l'écho de la détresse des passagers. Les transports sont des enjeux pour l'environnement et l'intégration sociale, dit La Croix. Les Échos rappellent que ce sont maintenant les entreprises qui sont responsables de l'éloignement de leurs salariés de la voiture. Heureusement, technologie, une start-up va nous emmener au boulot. Nouveau monde. Enfin, c'est dans La Croix. Le journal catholique va chercher à l'étranger des modèles pour rendre nos transports plus propres et plus humains. Alors il y a de l'exotisme dans ce dossier, avec des téléphériques et des escalators qui quadrillent la ville de Medellín en Colombie. Il y a aussi de la proximité avec Réseau Pouce Solidarité. C'est un réseau d'autostoppeurs qui est né il y a 5 ans en Tarn-et-Garonne. Et il y a ceci qui est terrifiant. Une application qui vient de Hyderabad, elle s'appelle Hawkeye. C'est une application smartphone conçue pour sécuriser les femmes dans le métro ou dans les transports en cas d'agression. Un bouton leur permet d'appeler le secours. C'est cela aussi l'enjeu de la mobilité. Nous vivons dans un monde terrible où la pollution n'est pas le seul problème.
Claude Ascolovitch pour la revue de presse sur France Inter.